dans son commentaire sur le Chumash, il a fait une introduction sur Parshat Emor. Je vais vous lire. D'ordinaire, les parchiotes de la Torah, elles ont une espèce de titre, en quelque sorte, chaque morceau qui permet de caractériser le contenu de la paracha. Les parchiotes n'ont pas de nom, parce que les mots que nous utilisons pour caractériser les parchiotes, c'est simplement le premier mot significatif de la paracha, mais ça dit rien sur le caractère, sur le contenu de la paracha. Par exemple, dans la paracha de Kedoshim, qu'on a lu la semaine dernière, bien entendu, son titre, c'est Kedusha. Le sujet de la paracha de Kedoshim, c'est la Kedusha. Le sujet de la paracha est mort, c'est le kavod. C'est ça que il veut montrer dans cette introduction. Toutes les mitzvot dans cette parashat Emor ont à voir avec la notion de kavod. D'abord le kavod de la kehuna, le kavod de la kehuna gdola, le kavod des korbanot, le kavod du haut mikdash. Parce que c'est kvod shamaim que de ne pas offrir à Hachem des animaux malades, avec des défauts. La notion de kiddush Hachem, la notion de chiloul Hachem, le kavod du Shabbat, le kavod du Yom Tov. Et donc, évidemment, la question qui va se poser, c'est quoi le kavod? D'accord, c'est le sujet, mais c'est quoi le sujet? C'est quoi kavod? La kedusha dont on a parlé la semaine dernière, la kedusha, elle est très souvent mentionnée ensemble avec le kavod. Exemple, quand nous disons le passouk du Navi, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzvakot, Melokh Olaretz, Kevodo, quand le passouk parle de la kedusha, et le dernier mot, c'est le kavod. Ou bien quand Moshe Rabbeinu a expliqué à Aaron, Hachem, après la mort de Nadav et Avihu, Hachem lui avait dit, Bikrovai ekadesh, ve'alpnei kol ha'am echabed. Je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche et devant tout le peuple, je recevrai du kavod. Dans la Kdusha Rishona, effectivement, nous on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzvakot, et la Kdusha Shnia, on dit Baruch Kvod Hashem Mimkomo. On parle de Kadosh et ensuite de kavod. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh et il est Mechoubad. La Kedusha, ça veut dire séparé. Séparé de tout ce qui est matériel. C'est la Kedusha. Comme nous n'avons absolument aucune idée Vehu Itbarach, le Boré Olam, si on veut. C'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce à quoi nous pouvons penser. Alors, quelle connaissance est-ce que nous avons du Boré Olam? Qu'est-ce qu'on en connaît? Kavod. Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzvakot. Là-dessus, c'est la Kdusha, on n'a pas accès du tout. Mais Mlokh al-Aretz Kvodo, sur Terre, cette Kedusha, elle se dévoile. Et sur ce dévoilement, au sujet de ce dévoilement, on peut dire quelque chose. Nous avons un accès à ce dévoilement de la Kdusha, pas à la Kdusha elle-même, mais au dévoilement de la Kdusha. Melo cholaretz kvodo. Sur terre, Akadosh Baruch Hu, oui, Barar se dévoile. Donc on pourrait dire, le kavod, c'est le dévoilement de quelque chose qui nous est complètement étranger, pour lequel nous ne pouvons rien dire du tout. Ce dévoilement de la Kdusha, c'est le Kavod. C'est comme définition du Kavod. À ce sujet-là, nous allons dire Shebra'anu lichvodo. Il nous a créés pour son Kavod. Ou bien nous disons She'akol bara lichvodo dans les Brachot. Il l'a créé pour son kavod. Kolani krabishmi lichvodi brati yetsarti. Les choses, je les ai faites pour mon kavod. J'ai créé, j'ai formé, j'ai fait tous les niveaux d'existence. Lorsque nous voulons nous approcher de Hu Yitbarach, nous devons être mechabed. La Torah, elle nous donne une définition de ce kavod qui nous permet de nous approcher d'un créateur. Mais pour ça, quand la Torah donne des définitions, il faut oublier nos présupposés sur la notion de kavod. La Torah va consacrer une parasha entière, quasiment, à ce sujet de Kavod. L'être humain, il a une sensibilité au Kavod. L'homme, l'être humain, il veut du Kavod. Il y a celui qui veut être Shaliach Tzibour. Il y a celui qui va acheter Maftir, ou il veut la Alia numéro 3 ou la Alia numéro 6. Bien, il veut être assis au Mizrach, il veut être assis devant. On peut presque pas définir le Kavod. C'est quoi exactement? Par exemple, Tava, le désir. l'envie. Ça, on sait définir. Un homme aime la glace. Très bien ce que ça veut dire. Parce que c'est quelque chose qui est agréable, c'est doux en général, mais le kavod, ça n'a pratiquement pas de définition. Au fond, l'homme qui veut absolument avoir du kavod, mais quand il a ce kavod, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que le kavod lui donne? Il veut le kavod, et ça lui donne quoi exactement? Kavod. Quelqu'un veut être assis au Mizrach. Ça lui donne quoi d'être assis au Mizrach? Alors, on a cette notion de kavod, on veut du kavod. Et malgré tout, c'est très difficile de définir ce que c'est que ce kavod, ce que ce kavod nous donne. Il y a des points de kavod, si on peut parler comme ça, qui doivent exister chez l'homme. Il y a des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire pour des raisons de kavod. La Gemara dans Kiddushin, elle dit que à Ochel Bashuk, Pasul si quelqu'un mange dans la rue, il n'est pas Pasul Leidut. Ça veut dire que si quelqu'un mange dans la rue, vous ne pouvez pas le prendre comme aide de Kiddushin. Bon, c'est aussi culturel, en fait, d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent dans la rue. Et tout le monde se promène avec ses gobelets de café ou de je sais pas quoi. Dans la rue, tout le monde promène avec ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sous les doutes? La Gemara dit, parce que comme il ne tient pas compte de sa dignité, du kavod personnel, alors probablement, il ne va pas tenir compte non plus du kavod de quelqu'un d'autre, et ça ne le dérangera pas, éventuellement, de témoigner faussement. Y a quelque chose, sais pas très bien ce que c'est exactement. Manger, on mange à la maison. Il y a des cultures dans lesquelles les gens importants ne permettent pas qu'on les voie manger. Chez nous en Afrique, il y a des gens importants, des rois, des personnes importantes, qui ne mangent pas en public. C'est quelque chose d'assez subtil. Dans tous les sujets de Kavod, c'est en général assez difficile de comprendre quel est vraiment le problème. La Gemara, on dit, on parle des vêtements, on dit que c'est Mahané le Khoubdata. Que les vêtements, c'est une façon de d'avoir un certain Kavod. L'habit c'est un élément qui donne qui en général exprime un certain statut, une certaine façon de se voir, de certaine dignité. Elle dit que un Talmid Raham, s'il se balade avec des taches sur son vêtement, il est quasiment Chayav Mita. On doit aller avec un vêtement propre. Aujourd'hui, cette notion-là de dignité, de kavod atzmi, de kavod de soi-même, c'est quelque chose qui, si on n'a pas ça, c'est quasiment, on n'est pratiquement pas un être humain. Agmar dit, ceux qui mangent dans la rue, bon, ils mangent comme les chiens, quoi. Il n'est pas loin d'être un chien. Mais Alter de Slobodka, qui était un grand connaisseur de l'humain, il disait que si on imaginait qu'on enlève à l'être humain tout son kavod, il ne lui reste plus qu'à mourir. Sans kavod du tout, c'est impossible de vivre. Le kavod est quelque chose de tellement inhérent à l'être humain. Alors le Rav Volbeit dit que c'est quelque chose qui vient de la neshama, le kavod. La neshama, c'est la réalité du kavod. C'est pour ça que dans le Tanakh, la neshama, elle est très souvent appelée le kavod. C'est marqué dans le passouk, c'est marqué les man izamru, man izamru, jamais chavod velo. On parle ici de la neshama. Parce que la neshama, c'est la metziout, la réalité du kavod. Si un homme recherche un kavod extérieur, il aura un kavod extérieur. Mais à l'intérieur de lui, en vérité, ce kavod, il vient de quelque chose de spirituel. On tient du spirituel, alors il faut du kavod. S'il n'y a pas de gdusha, il n'y a pas de kavod. Tous les gens veulent du kavod, ils veulent apparaître à la télévision, ils veulent être dans le journal, etc. Et en fait, plus on grandit en Torah, plus on recherche du kavod. Au départ, un jeune homme, il est dans le monde de la Tahava, du désir. Mais s'il se spiritualise un peu, alors il y a moins de désir, il y a plus de kavod. Rechercher, j'entends. Là, on peut dire le désir spirituel, c'est souvent une recherche de kavod. Quand il y a de la kedusha, il doit y avoir du kavod. Puisque le kavod, c'est le dévoilement de la kdusha. Et si on fait attention à ce qu'il y ait du kavod, ça permet de garder la kdusha. Dans la paracha de Emor, effectivement, la Torah nous a donné des dinim de kavod dus aux kohanim, aux mizbeach, aux moadim. C'est ça qui va permettre de conserver, de préserver la kedusha. L'homme doit, par exemple, donner du kavod à la nourriture. Bien que la nourriture, elle soit pas sensible au kavod qu'on lui donne. L'homme doit apprécier toutes les choses qu'il aide à être Adam. Il doit effectivement se donner du kavod à soi. Par exemple, à cause du Tselem Elohim qu'il y a en lui. Bien que on a vu la semaine dernière que Kedushim Tiyu, c'est une obligation d'être spirituel, c'est-à-dire coupé de la gashmiut, du matériel. Malgré tout, il faut il faut par des actes matériels qui sont de l'ordre du kavod, il faut intégrer ça dans son travail pour devenir spirituel, en fait. Ce n'est pas contradictoire avec la spiritualité. dans la Gdusha du Shabbat. Y a des dinim de Kavod. Le Kavod dû au Shabbat. Bien que le Shabbat soit quelque chose de spirituel, mais nous donnons au Shabbat du Kavod avec des actes matériels. Une façon d'exprimer la Kedusha, en fait. Voilà, ça c'est une première remarque sur cette paracha. Vais rapporter un autre enseignement de Dominique Feinstein. J'ai remarqué que dans cette paracha, tout commence avec trois fois la notion de Amira. Vayomer, Hashem el Moshe. Emor. Ve'amarta. Trois fois la référence à la Amira. Alors pourquoi la Amira? Dans Parshat Yitro, on avait vu que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, Kotomar le Bet Yaakov, ta guide, ainsi tu parleras la Lachon Amira. À Bet Yaakov, ce sont les femmes. Le Ribbono shel Olam, il a obligé Moshe Rabbeinu à parler de façon douce aux femmes. L'adlikotam, c'est-à-dire il faut les enthousiasmer en quelque sorte, mais de façon douce. Et pas comme Vaidaber pour les hommes, c'est la chaîne dibour cachée. C'est Xeratakatouf, c'est les décrets. La plupart du temps dans la Torah, c'est Vaidaber Hashem El Moshe, Dibour. Quelquefois, c'est marqué Amira. Et des fois, c'est marqué même Vaidaber Hashem El Moshe, Emor El Bnei Israël. Et des fois, c'est marqué même le contraire, Vayomer Amira Hashem El Moshe, Daber El Bnei Israël. Parle au Bnei Israël, la chante Dibour. Donc, c'est vraisemblablement, ça dépend de qui avait besoin de recevoir les choses sous forme d'un Dibour et qui a besoin de les entendre sous forme d'une Amira. Alors, il explique les choses de la manière suivante. Il dit. Au début, c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe. Ribbono shel Olam, il allume d'abord Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va pouvoir transmettre les paroles de la meilleure façon, et c'est-à-dire et qui va parler au Kohanim aussi en termes de Amira. Et aussi Ve'amarta Alehem. C'est-à-dire qu'il faut que tu convainques les Kohanim il faut avec ta parole tu les prennes comme c'est marqué Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Kach et Aaron, prends Aaron. Et Rachid dit, c'est-à-dire, prends-le avec des paroles et attire-le. Tu dois lui dire, Ashrecha, Shezachita Lekeuna. Tu dois être heureux d'avoir reçu la Keuna. Moshe Rabbeinu, il pouvait évidemment parler de cette manière à très sincèrement à Aaron, parce que chez Moshe Rabbeinu, pour Moshe Rabbeinu, la Kehouna, c'était quelque chose de très important. Quand il lui dit, sois heureux d'être Cohen, il pense que c'est quelque chose qui doit nous rendre heureux. Cette paracha, elle va au départ donc énumérer toutes sortes de lois concernant les Kohanim. Et bien que ce soit des lois de Issour, des interdits aux Kohanim, c'est dit sous forme de Amira, c'est-à-dire quelque chose qui est bon. Quelque chose qui est doux, qui est agréable. Et mort à la Kohanim, il faut qu'il fasse passer un message au Kohanim pour qu'il les convainque avec ses paroles. Mais en fait, c'est marqué une troisième fois, Amira. Ve'amarta lehem. Ça, c'est vraiment surprenant, quoi. De comprendre pourquoi on doit marquer trois fois. Alors, il propose, David propose d'expliquer comme ça. Il y a des fois, la Torah utilise des mots qui proviennent de d'autres langues, de langues étrangères. Mais en vérité, tous les mots ont des racines dans le Lashon HaKodesh. Ils ont des racines dans la Torah, mais nous ne connaissons ces mots que par le biais de langues étrangères. Le machal, exemple. Tout le monde connaît le sens du mot chutzpah. C'est un mot, chutzpah, qui est devenu tellement répandu que c'est entré aussi en anglais, certains français, chutzpah, en allemand, mais nous, on connaît le mot chutzpah aussi de la Shona Kodesh. Mais en vérité, c'est le contraire. Ce mot-là, il vient de la Shema Kodesh. Mais bon, ce n'est pas le moment d'en parler ici, dit-il. Mais on doit dire que le sens de cette troisième occurrence de Amira, de Ve'amarta Alehem, tu dois leur dire quelque chose de très d'élevé, de parler avec un langage élevé. Il dit, le mot Amira, vous enlevez le hé à la fin, Amir, il dit en arabe, Émir, c'est un lachon de malchoute. C'est un terme de royauté, de pouvoir, de puissance. Et donc Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, parle aux Kohanim et dis-leur, vous Kohanim, vous êtes des émirs du clan d'Israël. Le sens de Ve'amarta alehem, pas Ve'amarta lahem, Ve'amarta alehem, tu vas leur parler en leur disant quelque chose d'eux. Ce n'est pas tu vas leur parler, mais tu vas parler avec eux d'eux-mêmes. Tu vas leur dire qui ils sont. Emor el Kohanim, c'est comme à la Kohanim. Tu vas dire quelque chose à ces gens, au Kohanim, au sujet des Kohanim. Comme si c'était Al avec Aïn, Aïn Lamed. C'est ça qu'il faut entendre. Donc, Ve'amarta alehem, avec un aleph, c'est comme si c'était marqué Ve'amarta alehem avec un aïn. Le aleph et le aïn permutent souvent. Dis-leur la grandeur qui est la leur, parce qu'ils sont les Kohanim. Tu parles avec eux et dis-leur qu'ils sont des émirs, ils sont des rois. Et ils le sont depuis leur naissance. Ils n'ont pas besoin d'être choisis à chaque fois pour être Kohanim. Comme le fils du roi, il est potentiellement le roi. Il est ou non la force d'être finalement roi, ou pas. Ben Meller ou Meller. C'est une espèce de yichus, de grandeur de la famille. Bon, c'est pour ça que ça se transmet de Cohen à Cohen. La descendance du Cohen a une dimension royale, de génération en génération. Et on voit bien que les gens, pour obtenir du kavod, ils sont prêts à mettre des vêtements dans lesquels ils se sentent pas bien, de mettre des chaussures qui leur écrasent les pieds, des cols trop amidonnés, etc., etc. Ils seraient bien plus à l'aise avec une chemise ordinaire. Oh, ils sont obligés d'avoir un plastron. Les gens sont prêts à payer très cher pour cette forme de kavod.
royauté.
Et donc, tout ce qu'Hachem a imposé aux Kohanim durant toute cette paracha qui parle des obligations des Kohanim, ces choses qui apparaissent comme des décrets, comme des choses qui les empêchent de vivre quasiment. Le Nefesh lo itame be'amav. C'est un proche qui décède, enfin, il n'est pas suffisamment proche, mais il est quand même. Tu voudrais aller. Non, tu ne peux pas. Le Cohen, tu ne peux pas aller au cimetière. Désagréable. Un Cohen qui veut prendre l'avion, il faut qu'il se renseigne si dans cet avion, on n'est pas en train de transporter un cercueil, enfin, avec un mort. Il faut aussi vérifier quand l'avion il va passer au-dessus de un certain terrain, est-ce qu'il n'est pas au-dessus d'un cimetière? Le Rabbin Mouk, c'est qu'on est l'Ivracha, qui a écrit de voix de la Torah, il était Cohen. Il ne pouvait pas rentrer chez lui par la voie la plus courte parce que ça passait par-dessus un cimetière. Donc, il est obligé de faire un détour. Comment est-ce que les Kohanim peuvent accepter toutes ces interdits-là qu'on leur met, présentés avec une amira. Tu te fiches de moi, quoi. Tu me présentes des choses comme si c'était agréable et c'est une liste d'interdits, quoi. Je ne peux pas épouser qui je veux. Voilà. J'ai envie d'épouser une femme. Bon, d'accord, elle est divorcée. Ah, moi, je ne peux pas l'épouser. Pourtant, c'est elle que je veux épouser. Un Cohen, il ne peut pas. Donc, mon cher Rabbeinu, il doit leur vendre les choses. Alors, il faut leur expliquer que ce sont des choses qui sont le kavod, c'est un certain kavod qui leur permet de rester au niveau plus élevé qui est le leur. Le roi, il va pas dans les enterrements. Je vais un petit copain. Donc, il faut présenter les choses de la bonne manière, que ce soit une amira. La Gemara, elle fait une dracha, le Rashi ramène, Ve'amarta aleihem, Le'azir gdolim al haktanim. C'est de dire aux adultes, vous êtes responsables de ce que les ktanim respectent, la loi des Kohanim. C'est dans le même sens que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est parce que vous êtes en charge de maintenir la famille à un certain niveau. Le katane aussi, on doit le mettre au niveau de la kehuna. Comme les enfants du roi. Alors bien sûr que pour Israël, Israël aussi a une responsabilité de l'azir gdolim alaktanim. Ça, on verra à un autre moment. La fonction du Cohen, c'est de servir la vie, en fait. Servir aussi les vivants, au sens où de rapprocher des korbanot qui vont apporter la kapara aux gens. C'est-à-dire, il s'agit de développer la vie dans le monde. Le Cohen, il a rien à voir avec la mort, quelque part. Lui, il doit, presque on peut dire, faire vivre les morts. C'est-à-dire, y compris les Rechaïm qui sont considérés, même de leur vivant, comme des morts. Ils doivent être mechaper. Ils doivent apporter la kapara même aux rechaïm. Dans la Sanhedrin, quand on doit transmettre à quelqu'un qu'il est condamné, alors, enomrimlo chez Nifsak Dino le Mita. On ne lui dit pas directement que tu as été condamné à mort. D'abord, on dit des choses du côté du zuhud, du côté des mérites. Imata chaf mi pécha, si tu n'as pas fait de faute, tu n'as pas de souci à te faire. On ne va pas lui dire des choses qui sont là pour l'effrayer. Même chose pour le Cohen. Un nefesh hachotat, Abba Etzlo, celui qui a fauté et qui vient chez le Cohen. Le Cohen doit lui dire, Ata Cohen, chez Incha, chez le nefesh, Banu Niyacher tu dis que tu es à un niveau de nefesh. Et nous, on va arranger ça. On va apporter une capara. On va faire le travail qui va te permettre d'obtenir la capara. Toi, tu amènes le corban, mais de donner le corban, ça ne donne pas encore une capara. Il faut un travail des Kohanim. On va faire ce travail. La Gemara, elle rapporte, la Gemara dans ma côte, elle rapporte que celui qui a tué Beshogeg, comme vous savez, il va dans une ville refuge, et il y reste Admot à Kohen Gadol. Il va rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol qui était en service quand lui l'a tué par inadvertance. Qu'est-ce que le Kohen Gadol a à voir avec celui qui a tué par inadvertance? Il a à voir, Mipnei Shayalol et Palel, Shelo Yirtzach Adam Afilu Beshogeg. Il aurait dû, le Kohen Gadol, il aurait dû prier pour que personne ne tue, même Beshogeg. On dirait qu'il a mal fait son boulot. Quand il va mourir, il aura reçu son Onesh, en quelque sorte, le Rotsea, l'assassin, par inadvertance, pourra retourner chez lui. La fin de la paracha parle des moadim, parle des yamim tovim. Daber el bnei Israël, ve'amarta alehem, moadei Hashem asher tikru otam mikra'e kodesh, elehem moadei. Voici la liste de mes moadim. Un moed, c'est un moment où on se laït va à doute, c'est-à-dire où on se retrouve dans une réunion il y a des jours de réunion avec Hachem. Moadé Hachem. Espèce de rendez-vous pour des moments privilégiés. Et voici la liste. Elehem. Voici la liste de ces jours de rendez-vous. C'est les jours où on rencontre Hachem. Parler de certains sujets qui nous préoccupent, ou bien pour le remercier, un des moadim, curieusement, le premier qui est cité d'ailleurs, c'est Shabbat. C'est toujours un problème. Shabbat, c'est pas un moed. Or ici, on voit que Shabbat est considéré comme un moed. Il y a un moed, dans moed, on entend aide. Il y a une espèce de témoignage. Il y a une dimension de témoignage. On témoigne. Il y a un témoignage qu'Hachem est le créateur. Et donc, ce Shabbat, en tant que Moed, il vient fortifier notre Emouna que Hachem est le Boré Olam. Mais pourquoi est-ce que la Torah, elle répète? D'accord. C'est écrit, d'abord, Bnei Israël, v'amarta alehem, Moadei Hachem. Et puis à la fin du verset, Yikra'e Kodesh, Elehem Moada. Pourquoi la Torah répète Moadé? On a déjà dit qu'on parlait des Moadim. Cheshet Yamim, Ta'aseh Melacha, etc., en Shabbat. En fait, on aurait dû tout de suite dire, après ça, on aurait dû plus dire, Bachodesh Arishon, Bchamisha Asaryom, Bachodesh Azeh, le 15, c'est Pessah. Et Kol, tout Yom Tov, il a besoin de cette introduction de Ele Moadé Hashem. Ceux-là sont les Moadim d'Hashem. En fait, Rashi, il avait un problème. Pourquoi le Shabbat est mentionné parmi les Moadim? Rashi s'exprime de la manière suivante, il dit Ma'inyan Shabbat et Sen Moadot. Qu'est-ce que le Shabbat fait quand on est entré, quand le sujet c'est Moadim? Il répond le Lametra c'est Kol HaMechalel et ta Moadot, Ma'alin alav keilu chilel et ta Shabbatot. On a bien enseigné que toute personne qui transgresse les Yamim Tovim, c'est comme s'il transgressait le Shabbat. Et tout celui qui fête, comme elle doit être fêtée, les Moadim, le passouk vient dire que c'est comme s'il avait été, il avait accompli le Shabbat. Alors, je veux savoir. C'est quoi le lien entre Moadé Hachem, Asher Tikrou, Otam, Bikra Kodesh, qui est dit, cette phrase-là, qui est dite au sujet du Shabbat, avec Elle est Moadé Hachem, Bikra Kodesh, Asher Tikrou, Otam, Moadam, ouais, qui est dit sur les Moadim. Et du coup, on en revient à la question, pourquoi est-ce que. C'est répété, l'histoire du Moadim. La réponse de Rashi, dit Rabbi David, c'est la suivante. Tous les Moadim, pas seulement le Shabbat, leur but, c'est de proclamer qu'Hachem est le Créateur. Le Ribbono shel Olam ou Aboré shel Haolam. Maître du monde, c'est lui le créateur du monde. Pessah, Shavuot, Sukkot, ce ne sont que des témoignages à ce sujet-là. Et on voit dans Rashi que le Icar des Moadim, c'est Shabbat. C'est ça qu'il dit. Le Lametra, c'est que la Mechalel Moadot, qui l'ouvre, il a le Shabbatot. D'accord? La gravité de la transgression des Moadim, c'est que c'est posé comme une transgression du Shabbat. Ce n'est pas suffisant de dire que tu as transgressé les Moadim. Non. Ce qui est important dans la transgression des Moadim, c'est que tu transgresses un Shabbat. Remarquez le contraire. Quand tu transgresses Shabbat, c'est comme si tu transgressais les Moadim. Parce que chaque semaine, évidemment, le monde se renouvelle, comme quand il y a Kiddush Levana, c'est le renouveau de la lune, tous les mois, de même qu'il y a un Kiddush Hahama tous les 28 ans, etc., après 29 ans, il y a un renouveau du cycle solaire. Kol davar she moré al hitratshut shel sheshet yemei breshit vachin. Et on va donc faire une bénédiction sur le renouveau de chaque semaine comme cycle de 7 jours. Shabbat, c'est la notion qui fait référence au renouveau du monde. Ribbon a créé le monde en 6 jours et il a fait le Shabbat le septième jour. Et chaque semaine, c'est comme si on faisait un Kiddush Levana ou un Kiddush Hachama qui dit que le Boré Olam, Bara et Haolam, le monde, le créateur du monde, il a créé le monde. Donc, les Moadim, ils disent ça aussi. Ils nous disent, ils s'adressent à nous. Ils nous disent, Habibi, cher ami, Ata Omed al Shabbat, Ata Omed Kol Shabbat, Umeid Sharibon Shel Olam, Bara Ata Olam. Tous les Shabbatois, tu témoignes. Quand je vois quoi créer le monde. Tagidli, Manig et Taolam, est-ce qu'il dirige le monde? Im, Tagidlo, Sheou Ifsik, Lavo. Si tu lui dis que il a pris sa retraite, parce que un roi sans royaume, sans sujet, c'est pas un roi. Donc, nous disons effectivement que Mishamar Baruch Ata Hashem, Shakol Nieh Bidvaro, et qu'il n'a pas mentionné le Meler, Aolam, Loyatsa. Une bracha, elle doit avoir Shem ou Malchut. Vous mentionnez la royauté. Il ne suffit pas de citer Baruch Ata Hashem. Meler Belo Malchut, ce n'est pas un roi. Donc, le Ribbono Shel Olam n'a pas créé le monde. Ensuite, il a pris sa retraite. Voilà. Il a mis le monde sur une trajectoire et il s'en désintéresse. Il n'y a pas de roi qui crée une royauté et qui s'en désintéresse. Un roi de chair et de sang, comme il est mortel, il ne vit pas éternellement. Évidemment, quand le temps arrive, Hachem va le mettre au repos. Bon, évidemment, c'est Hachem qui va le mettre au repos. Mais le Ribbono Shel Olam, lui, il est roi en permanence. Et donc, sa royauté, elle dure éternellement. La plupart du temps, dans la royauté de droit divin, ou chez les Arabes, ou comme ça, en fait, il y a une continuité. Quand le roi meurt, son fils prend la suite, naturellement. On n'a pas besoin, il ne va pas être réélu ou re-choisi. La même manière, il y a une continuité dans la tribu royale. Au sujet de David Hamelech, il est dit, Vaishkav David imavotav. David est décédé, il est couché avec ses ancêtres. Et on dit, David l'omet, Ishir David, Tsair al-Kiseh amalchut. Il a laissé un jeune David sur le trône, il s'appelle Shlomo. Mais s'il n'avait pas laissé de Shlomo, Alors on aurait dit Vayamot David, il est mort. Parce qu'il n'avait pas de, il n'aurait pas eu de successeur. Le Ribbono shel Olam qui a créé le monde, il n'a pas besoin évidemment d'un héritier. Donc évidemment, il dirige le monde et il règne éternellement. Mais qu'est-ce que nous témoignons, de quoi est-ce que nous témoignons? On témoigne que le Ribbono shel Olam, il a la capacité complète de gouverner, de diriger le monde, eh bien, à l'aider, Pessah, Shavuot, Sukkot, on témoigne qu'il continue de diriger le monde dans ses, avec ses moadim. C'est une façon d'accomplir, de faire durer, en quelque sorte, ce Vayikulu HaShamayim Va'aretz, par le fait que nous pratiquons les moadim et nous témoignons qu'il est Melech Olam, Melech HaOlam. Et tous les Yamim Tovim qui sont liés donc au clan d'Israël, où on a vu clairement que c'était Hachem qui gouvernait le monde, comme on l'a vu à Pessah. Bon, on sait, comme on a bien vu comment Hachem gouvernait le monde à Pessah. C'est pour cette raison-là, la place de Pessah, c'est justement après Shabbat. On a mentionné les moadim. Voilà les moadim. Shabbat, c'est ça. C'est pas que Shabbat est auprès des Moadim. Tous les Moadim sont auprès du Shabbat. Les Moadim sont cités après le Shabbat parce que c'est pas le Shabbat qui est l'intrus. Les Moadim font une partie de ce que nous proclamons chaque Shabbat. Les Moadim parlent de certains moments dans l'histoire du clan d'Israël, dans l'année du clan d'Israël. On mentionne le fait que Hachem, à telle ou telle occasion, il a manifesté qu'il gouvernait le monde. C'est pour ça que le Shabbat, bon, c'est pas. Intuitivement, jusqu'à présent, aussi j'ai toujours, comme tout le monde pose la question, qu'est-ce que le Shabbat fait dans la liste des Moadim? Donc il dit, c'est le contraire. Le Moed par excellence, c'est Shabbat. Les autres sont seulement des façons de certifier. De témoigner qu'effectivement, non seulement Hachem a créé le monde, mais il continue de s'en occuper à tout moment. J'avais vu l'enseignement de Ravolbet sur la notion de kavod. Et il avait donc dit que toute la paracha de Hémor était placée sous le signe du kavod. Alors il a aussi expliqué que le Issour Melacha, les 39 interdits de Melacha du Shabbat, font partie de la notion de Kavod du Shabbat. Ça n'est pas le Kavod du Shabbat de pratiquer une des 39 Melachot. Et la même chose, pratiquer une Melacha Yom Tov, c'est contraire au kavod qu'on doit donner au Yom Tov. C'est la raison pour laquelle la paracha des Moadim se trouve dans Parashat Emor. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Moadim? Les Moadim, ce n'est pas un din spécial pour les Kohanim. Emor, c'est l'hymne de Kohanim, essentiellement. Pourquoi tout à coup on amène les dinim des Moadim qui concernent tous les Bnei Israël, pas spécialement les Kohanim? Mais la paracha, ce n'est pas une paracha de Kohanim, c'est une paracha de Kavod. Et donc le Shabbat, les Issourim du Shabbat, sont aussi une forme de Kavod, comme elles le sont aussi une forme de Kavod de Yom Tov. C'est ça la raison d'être de cette parasha de Moadim en plein milieu de quelque chose, une parasha qui est consacrée, semble-t-il, à la Kehuna. Alors, Pasouk, c'est marqué Imachorat à Shabbat, depuis le lendemain du Shabbat, et Rashi dit que le lendemain du Shabbat, on va apporter le korban omer, ce korban d'orge. On amène donc le deuxième jour de Pessah. Parce que Rashi explique que Mimachorat à Shabbat, ça veut dire Mimachorat Yom Tov Rishon Shel Pessah. On sait bien que les Tzedukim, ils lisent Mimachorat à Shabbat, que c'est un lendemain de Shabbat. Donc pour eux, Pessah, c'est toujours Shabbat. Et le décompte de 50 commence dimanche. Donc Shavuot sera toujours un dimanche. Et les chrétiens, ils ont repris ça. D'accord? Et eux aussi, leur Pentecôte, toujours dimanche. Et pour eux, comme c'est Mimachorat Shabbat, ça veut dire que Pessah, c'est toujours Shabbat chez eux. Alors ils ont décidé que ce qui est important, c'est le lendemain. Donc la Pâque, les Pâques de Goïm, c'est aussi toujours dimanche. Alors, les Tzedukim, ils voulaient que le décompte parte toujours d'un lendemain de Shabbat. Pour eux, Shabbat, c'est Shabbat. Ils n'acceptent pas la drasha. Ils disent que le Shabbat, dans ce verset-là, ça veut dire Pessah, premier jour de Pessah. La question qui se pose, C'est pourquoi est-ce que la Torah a choisi de dire, au lieu de dire clairement, le deuxième jour de Pessah, vous amènerez le Corban Omer, aucun problème, on sait exactement de quoi on parle. Alors, ils ont dit, mais Machorat à Shabbat. Alors, il a fallu expliquer que Shabbat, c'était le premier jour de Pessah. Pourquoi la Torah a choisi ça? Le Malbim explique que si dans la Torah on avait mis Mimachorat Achag, au lendemain de la fête, ou Mimachorat Amoed, alors on aurait pensé que la Kavana c'est à la fin de la fête. Comme la fête elle dure 7 jours, alors la fête ou le Moed dure 7 jours. Et donc, on aurait le 8e jour de Pessah, si on veut parler comme ça, on aurait apporté le corban. Pourquoi on explique si on avait dit Chag ou Moed, on aurait eu un problème. Il ne dit ni Chag ni Moed, ni Pessah. Là, c'est clair, parce que le mot Pessah, le vrai en vérité, nous, on appelle la fête les 7 jours, on appelle les 7 jours Pessah. Mais en vérité, la fête, elle s'appelle Chag HaMatzot. Seulement le premier jour, peut-être même le premier soir seulement, il s'appelle Pessah. Pessah, ça a à voir avec le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est le soir du premier jour. Mais en fait, si on avait dit ça, alors on serait trompé parce que le Corban Pessah, quel jour est-ce qu'on apporte le Corban Pessah? Quand est-ce qu'on fait le Corban Pessah? Le 14, pas le 15. C'est le 14 qu'on fait la Shkita du Korban Pessah. On le mange dans la nuit du 15, mais on en fait la Shkita le 14. Et donc, si on avait dit Pessah, les gens auraient pensé qu'il faut aller faire le Korban Omer le premier jour de Pessah. C'est le lendemain de Pessah. C'est pour ça qu'il fallait écrire les Machot à Shabbat. Le Mashmaout Shabbat, Yom Sheshovtim Bo Mimlacha. Le Shabbat, étymologiquement, c'est un jour de chômage. On chôme par rapport à certaines Melachot. Machot à Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du jour où on a chômé. Jour qui était interdit de travailler. Au lendemain, là, c'est ce moment-là qu'on choisira, qu'on devra apporter le Corban Omer. Voilà, on s'arrête là.